on n'est pas dans un endroit pendant quelque temps, on est content d'y être. Plus tard, ça fait 5 fois. Ça, c'est j'étais 4 dimanches sans vous. Ou 4 dimanches, vous étiez sans moi. Peut-être vous ne l'avez pas senti pareil. Mais c'est magnifique de voir comment le Seigneur utilise les paroles et les idées des uns et des autres pour les tisser et pour former l'Église de Christ. Parce que l'Église du Seigneur, l'Église locale ici, c'est réellement un mystère, n'est-ce pas? On sait bien que ce n'est pas le bâtiment, donc nécessairement ce sont les gens. Et c'est l'intrication des idées avec l'action du Saint-Esprit qui met toutes les choses ensemble et qui fait que le culte est un culte qui est rendu à Dieu. On n'est pas juste là pour faire une pièce de théâtre, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est mystérieux. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne se téléphone pas avant. Bon, moi je vais intervenir là, je vais dire ça ensuite, et toi tu vas dire ça. On peut préparer des choses comme ça, mais là en l'occurrence ce n'était pas le cas. Et bien des choses qui ont été dites ce matin font écho à ma réflexion sur la parole de Dieu. Hein, le concept de l'Église est quelque chose d'absolument extraordinaire. Aujourd'hui, on a une vieille expérience de cette Église qui a, avec le poids des siècles, changé, modifié sa forme et est devenue un peu difficile à comprendre quand on parle de la grande Église avec les clochers et tout le reste. Mais en réalité, le Seigneur a pourvu, au travers des âges, pour que son Église reste celle qui est attachée au cœur de Dieu, celle qui est attachée aux pas et aux vertus du Fils de Dieu. Et ça, c'est magnifique parce que rien ni personne depuis le début, depuis que la première Église a commencé, je vais dire qu'elle a commencé dans les actes, bien qu'elle a sans doute commencé bien avant. Mais toutes les attaques qui ont eu lieu depuis n'ont pas réussi à la détruire. Et personne, ni Satan, ni aucun homme n'arrivera à l'anéantir. Et j'en suis le témoin jour après jour en ce qui concerne l'Église persécutée. Plus on tape dessus, finalement, eh bien, plus ça pousse d'un côté. Plus on est enfoncé dans un endroit, eh bien, plus les racines sont profondes, finalement. Et ça, c'est magnifique. Eh bien, et ce matin, ça devenait évident pour moi. C'était une sorte de spectacle que j'avais devant moi, et je l'ai senti particulièrement fort. Ce matin. Lorsque j'étais tout nouveau converti, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, et quand on réfléchit pas beaucoup à ce que ça veut dire quand on dit j'ai donné ma vie au Seigneur, mais bon, voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis aperçu très rapidement, de façon intuitive, que je ne pouvais finalement rien donner à Dieu si lui ne me l'avait pas donné d'abord. C'est-à-dire que j'étais incapable même de lui dire que je l'aimais si lui n'avait pas d'abord en moi fait quelque chose qui me rende capable de dire que je l'aime. Ensuite, je me suis aperçu que je ne pouvais rien donner à qui que ce soit autour de moi. Je ne pouvais pas aider dans le sens profond du terme aider, c'est-à-dire être réellement un secours, réellement celui qui est capable de de donner la chose qu'ils font. Je me suis rendu compte que j'étais incapable de faire cela, à moins de n'avoir moi-même reçu cela de la part du Seigneur lui-même. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'aider tous les jours. On voit des psychologues qui essayent d'aider des gens qui ont des difficultés. Et lorsque vous grattez dans la vie de ces psychologues, vous apercevez que c'est des gens qui sont en détresse absolue. Vous avez des médecins qui essayent de faire en sorte que d'autres arrêtent de fumer. Et vous rendez compte qu'eux-mêmes fument. On ne peut pas aider quelqu'un si on n'a pas nous-mêmes les clés du problème de la personne, n'est-ce pas? Et si nous-mêmes nous sommes en difficulté. Et aujourd'hui, je réalise de plus en plus que, ayant reçu de Dieu, je ne peux pas rester sans donner. N'est-ce pas? Il y a une sorte de suite logique. On ne peut pas donner à Dieu si on n'a pas reçu de lui. On ne peut pas donner aux autres si on n'a pas reçu de lui. Mais lorsqu'on a reçu, on ne peut pas rester tel qu'on est sans donner. Et nous sommes, et je suis, appelés à travailler, à être un serviteur, à être un ouvrier avec Christ. Et non pas pour Christ, comme on se trompe souvent. Nous sommes ouvriers avec Christ. Et c'est là magnifique ce privilège particulier que nous avons. Que Christ ne nous voit pas comme étant ceux qui vont travailler pour lui. Il n'est pas notre propriétaire, bien qu'en réalité il le soit. Il n'est pas celui qui nous domine, bien qu'en réalité il nous domine. Il est celui qui nous accorde la joie et le droit de travailler avec lui. Ça fait penser à ces paroles dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Nous sommes ensemble, vous et moi, avec lui. Nous sommes ensemble à travailler. Le Seigneur nous a sauvés. Pour ceux qui sont sauvés. Et si ce matin, il y a des gens qui ne sont pas sauvés ici et qui le savent, eh bien, vous pouvez sortir de cette pièce en ayant reçu le salut de Dieu. Pour ceux qui sont sauvés, nous sommes appelés à terme à donner. Nous sommes appelés à nous donner. Parce que, ayant été sauvés, nous n'avons finalement plus d'autres besoins dans notre vie quotidienne que celui de transmettre ce qui nous a été confié à ceux qui en ont le besoin. Encore faut-il que nous soyons disposés à recevoir. Encore faut-il que nous soyons en mesure de recevoir. Encore faut-il que nous soyons, j'allais dire, suffisamment vides de nous-mêmes pour que Dieu puisse venir et nous remplir de lui. J'aimerais lire dans Romains, ces versets qui, justement, nous parlent d'être des conteneurs et dont il a fait état ce matin. Romains 9. À partir du verset 18, je vais lire jusqu'au verset 21. Je le sors un tout petit peu du contexte. Il est parlé de Rebecca, Isaac. Je vais le lire peut-être un peu avant, comme ça on va comprendre un peu mieux. À partir du verset 11. Attendez. Il en fut ainsi de Rebecca qui conclut du seul Isaac, notre père, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent ni fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formé pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? C'est vrai. Qu'est-ce qui résiste à la volonté de Dieu? N'est-ce pas? Les choses sont suffisamment difficiles comme cela. Pourquoi faut-il encore que je sois blâmé? Je crois que l'homme de façon générale, mais j'ai peur que ce soit aussi le cas pour les chrétiens, est un grave problème qu'il n'arrive pas à résoudre réellement. Certains croient que le problème de l'homme, c'est la mort, le fait de la disparition et du néant et de ne pas savoir ce qui va se passer après. Et nous, chrétiens, parfois nous vivons avec cela, en sachant pas non plus, en n'étant pas nécessairement sûr de ce qui va se passer après la mort. Et on est d'accord que si un chrétien n'est pas sûr de ce qui va se passer après sa mort, eh bien il n'est pas en bonne santé. Il ne sait pas comment agir, il ne sait pas quoi faire, et il a peur finalement de mourir. Et les gens, de façon générale, focalisent beaucoup sur cet aspect des choses. Mais en réalité, et j'y ai beaucoup pensé ces derniers temps, le problème n'est pas la mort, le problème est celui de la vie. Il est celui de l'existence. Il est, le grand problème, c'est que les hommes et les femmes sont nés à leur insu. Qui d'entre vous ici a choisi de venir? Personne. Qui a décidé que vous seriez sur la terre? Pas vous. Aucun d'entre vous. Et nous avons des enfants qui naissent, qui entrent dans des familles de différentes manières, n'est-ce pas? J'entends moi beaucoup parler de viol. Ce sont des enfants qui arrivent. Mais il y a des enfants qui naissent de l'amour aussi. Ce sont des enfants qui arrivent. Alors, on entend parler beaucoup d'avortement, n'est-ce pas? On sait bien que, à l'origine, Simone Veil a proposé cette loi contre l'avortement, pour l'avortement, pardon, parce que ça venait de son expérience dans les camps où les filles étaient violées et ensuite se retrouvaient avec des enfants qu'elles n'avaient pas choisis et qu'elles devaient vivre avec cela, qu'elles étaient doublement punies, n'est-ce pas, toute leur vie. Et c'était pour ce genre de situation qu'elle préconisait l'avortement. Parce que, pensait-elle, la mère était punie. Et l'enfant lui-même serait puni finalement. Parce que pas issu d'un mariage d'amour. Mais l'enfant qui est né d'un mariage d'amour n'a pas plus choisi de venir sur la terre que celui qui est né du viol. Aucun enfant n'a choisi de venir sur la terre. Et la plupart, et je dirais 100% des personnes qui peuplent la terre, le monde, ne sont pas satisfaits d'y être. Parce que c'est une contrainte. Ils sont nés contraints. Et ils sont obligés maintenant de supporter toute leur vie. S'ils souffrent, c'est parce qu'ils sont là, alors qu'ils n'avaient pas choisi d'être là. S'ils doivent être martyrisés, c'est parce qu'ils sont là, alors qu'ils n'avaient pas choisi d'être là. S'ils doivent vivre pauvres et ignorants, c'est parce qu'ils sont là, alors qu'ils n'avaient pas choisi d'être là. Et la grande colère de l'homme, c'est celle-là. Elle est orientée complètement contre Dieu. Je n'ai pas choisi d'être là, c'est de ta faute. Est-ce que vous entendez cette clameur, ces millions d'hommes et de femmes qui tous les jours disent à Dieu, je n'ai pas choisi d'être là. Je hais cette vie. Et toutes les attitudes, tous les comportements humains que nous avons aujourd'hui, tous ceux qui sont justement liés à la vie ou à la mort, tous ceux qui sont liés à l'avortement, tous ceux qui sont liés à ce fameux mariage pour tous, toutes ces choses-là sont des arrangements qu'ils voient comme des nécessités pour s'approprier une vie qu'ils n'ont pas choisie. Pour choisir enfin son enfant. Parce que eux n'ont pas pu choisir de venir. Alors ils se disent, on va choisir d'autres circonstances. Ou alors on va, si déjà on est sur la terre, on ne va pas encore devoir supporter un enfant. N'est-ce pas? L'avortement, le choix, toutes ces choses qu'on n'a pas pu faire dès le départ. Ce choix qu'on ne nous a pas laissé. Ce choix que Dieu, et on ne veut pas le citer, Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est sans arrêt contre lui que tout cela est dit. Tout cela est fait contre lui. Parce que les hommes et les femmes n'ont pas réglé leurs problèmes avec l'existence. Et combien de chrétiens n'ont pas réglé leurs problèmes avec l'existence? Et c'est pour ça que leur vie ne va pas bien. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de donner aux autres. Parce qu'ils sont encore en train de se dire, mais pourquoi je suis là? J'aurais préféré ne pas y être. J'aurais préféré ne pas vivre. Parce que maintenant, je dois souffrir ça, je dois souffrir ça. Frères et sœurs, nous sommes nés parce que c'était la volonté de Dieu. Parce que c'était son désir. Parce qu'il avait quelque chose à partager avec nous. Est-ce que nous avons réglé notre problème avec l'existence? Job. Combien lèverait le doigt pour dire « Moi, je suis Job ». C'est pas qu'on désobéit contre Dieu, n'est-ce pas? C'est pas qu'on est contre lui. Job était droit aux yeux de Dieu, dans la mesure de ses possibilités. Dieu l'avait jugé ainsi. Mais Dieu a été obligé de lui apprendre ce fait. C'est que tu n'étais pas là lorsque tout a commencé. Tu n'étais pas là lorsque les idées premières sont venues. Tu n'étais pas là lorsque j'ai décidé des choses. Et la place de Dieu, c'est la mienne. Et la place ultime, c'est la mienne. Et Job, il va falloir que tu acceptes cela pour que ça puisse continuer dans ta vie. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? C'est ce que Job disait à Dieu. Job 10, verset 18. « Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. » Est-ce que vous avez déjà songé à cela? Mais bien entendu, vous y avez songé. Moi, j'y ai songé. C'eût été si facile si finalement on m'avait avorté. Je n'aurais pas besoin de supporter ce monde. Je serais comme si je n'eusse pas existé et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. L'homme aujourd'hui est suicidaire à cause de cela. Parce qu'il a besoin de se divertir, de penser à d'autres choses. Et quand je parle de suicide, je ne parle pas nécessairement de mettre un terme à sa vie immédiatement. Je parle de conduite suicidaire. L'homme a besoin de faire autre chose. L'homme a besoin de penser à autre chose. L'homme ne veut pas subir son existence. Et c'est pour ça qu'il travaille dans tous les sens pour essayer de trouver des alternatives, des choses qui vont alléger sa vie. C'est pour ça que la richesse est si importante. C'est pour ça que la santé est aussi importante. C'est pour ça que la religion est importante. Est-ce que nous avons réglé le problème avec l'existence? Est-ce que aujourd'hui nous ne la subissons ou est-ce que nous l'aimons? Parce que à cette question, il faut répondre, n'est-ce pas? Pour que la suite puisse venir. Parce que si nous subissons l'existence, si nous n'aimons pas cette existence, mais alors nous ne pouvons pas non plus recevoir quelque chose de Dieu. Parce que si nous n'aimons pas l'existence, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Et Dieu ne peut rien nous donner. Il ne trouve pas en nous d'endroit où se placer. Placer les choses qui le concernent. Il ne peut pas nous remplir pour qu'ensuite nous puissions donner. Et nous sommes incapables de donner dans ces conditions. Verset 18, « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. » Mais Dieu, à quoi tu penses? Nous avons une volonté, on l'a dit ce matin, qui est parfois différente de celle de Dieu, c'est Stéphane qui a dit. On pense, on arrange les choses comme on aimerait qu'elles soient. Et ne venez pas me parler du libre arbitre et de la prédestination de ces choses-là. Je ne vais pas rentrer avec vous dans des discussions, bien que j'ai mon avis là-dessus. Mais qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, qu'il s'agisse du libre arbitre ou qu'il s'agisse de la prédestination, est-ce que nous sommes prêts à accepter la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes convaincus que tout ce que Dieu fait et nous propose est parfait? Quelle que soit la réponse, quelles que soient les convictions qui sont les nôtres d'un point de vue théologique, est-ce que si un jour on a la preuve par AX plus B que c'est ça la vérité, est-ce qu'on va être d'accord? Est-ce que j'aime mon existence? Est-ce que j'aime la volonté de Dieu? C'est pas est-ce que j'accepte la volonté de Dieu? Les hommes acceptent leur vie d'une certaine manière, ils sont bien obligés. Et en acceptant, ils font tout pour que ce soit plus difficile, plus facile à vivre. Est-ce que j'aime mon existence? Est-ce que j'aime la volonté de Dieu dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont autour de moi? Est-ce que j'aime la façon dont Dieu gère les choses sur la terre? Il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. La condition pour que nous soyons en mesure de recevoir de Dieu, c'est que nous soyons d'accord avec Dieu sur la façon dont il a géré nos vies, sur la façon dont il nous a conduits jusque-là, et sur la façon dont il conduit le monde. Il nous faut aimer la volonté de Dieu. Il y a une jeune femme qui a été libérée dernièrement, qui avait été emprisonnée en Indonésie pour sa foi, et elle, lorsqu'elle était en prison, elle a été libérée en juillet, je crois. Elle disait cela. Tout d'abord, j'aimerais remercier Jésus, mon Seigneur. Toutes choses qui se sont déroulées dans ma vie, y compris la prison, sont l'accomplissement de sa volonté pour moi. On peut juste s'arrêter là. Tout le reste, on sait que ça vient du cœur de Dieu, que c'est le résultat d'une relation intime avec le Seigneur. Mais elle explique, « Le Seigneur m'a donné une vision en 2011. Je me voyais en train d'escalader une montagne en tenant mon appareil photo dans la main. Ayant atteint le sommet, je me préparais à prendre des photos du paysage qui s'offrait à moi. Mais l'image que je vis était celle de Jésus portant un agneau et disant à trois reprises, « Je suis le bon berger. » Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je n'ai jamais oublié cette vision. Après cela, je suis allé à différents endroits pour partager mon amour pour Jésus avec les personnes qui voulaient bien écouter. Et pendant que je faisais cela, j'ai soudain réalisé ce que signifiait cette vision. Cela voulait dire qu'il serait avec moi partout où j'irai, avec la bonne nouvelle. Comme le bon berger. Lors de mon arrestation, je croisais beaucoup de monde. et je priais, remerciant Dieu et lui demandant, « Est-ce que c'est le moment maintenant de faire connaître ton nom ?» Alors je fus en paix, abandonnant à Dieu et criant que sa volonté prenne place dans ma vie et à l'endroit où je me trouvais. Parfois, je me sentais seul. Malgré tout, un jour, le Seigneur m'a encouragé avec un verset de la Bible. Matthieu 10, verset 24, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si moi, ton maître, ai été persécuté, tu devras affronter les mêmes choses, parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. » Mon cœur était rempli de reconnaissance. Pendant la période de garde à vue qui a duré 2 jours au poste de police, j'ai demandé à Dieu de me donner la sagesse de la parole, n'étant pas une bonne oratrice. J'avais prié en ce sens pour que si des personnes me le demandaient, je puisse partager l'Évangile avec confiance. En liberté ou en prison, j'avais décidé que jamais je ne m'arrêterais de partager l'espérance que j'ai en Christ. Comment est-ce qu'on peut donner? Comment est-ce qu'on peut partager à d'autres lorsqu'on est dans les chaînes, lorsqu'on est maltraité pour ce qu'on croit? On peut donner si on a soi-même reçu, n'est-ce pas? C'est le seul moyen. Il faut que le Seigneur nous aide à recevoir de lui. Que nous ne soyons pas, nous, plus grands que lui, mais que nous soyons comme lui. Que nous soyons ouvriers avec Christ. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Quand vous recevez de la parole de Dieu, est-ce que cela vous remet en question? Le drame, c'est lorsqu'on devient un chrétien professionnel. N'est-ce pas? Lorsqu'on n'est plus déstabilisé par rien. Lorsqu'on a la réponse à tout. Lorsqu'on trouve des formules. Dans toutes les situations, on est pris en défaut. Ça, c'est le drame de l'Église. C'est ça qui fait qu'elle va s'encrouter pour finir comme une religion quelconque. Dieu a besoin d'hommes et de femmes fragiles. Il a besoin d'hommes et de femmes qui savent se laisser travailler par lui, qui sont malléables. Où Dieu peut prendre la masse et la retravailler à merci. D'hommes et de femmes qui sont capables de laisser leur place. Parfois, certains se trouvent indispensables là où ils sont. C'est parfois le cas. C'était le cas pour l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Il disait, finalement, j'aimerais plutôt être auprès du Seigneur. Mais je crois que l'intérêt pour l'instant, c'est que je reste au milieu de vous. Mais dans les églises, nous avons besoin que hommes et femmes soient fragiles, qu'ils puissent être manipulés. Vous avez vu travailler un potier sur son tour. Vous l'avez vu utiliser, prendre l'argile. et d'une masse en fer un vase. Et arrivé au bout, il le regarde comme ça. Non, ça ne va pas. Et il reprend tout à zéro. Et il refait la même chose, le même travail. Jusqu'à ce qu'enfin il trouve que ça correspond à ce qui était prévu. Est-ce que Dieu, frères et sœurs, peut faire ça avec moi? Est-ce qu'il peut le faire avec chacun d'entre nous? Et prendre une masse de Alex, une masse de Paul, une masse de Pierre, Jacques, Jean, et la balancer dans un coin pour en refaire un autre objet de l'usage qu'il décidera. Est-ce que la parole nous touche? Est-ce qu'elle nous remet en question? Est-ce qu'elle nous défie? Ou est-ce qu'on a déjà pris ces habitudes, vous savez, de se voir dans cette glace? Et dire, oh là là, oui, c'est vrai, je ne suis pas beau, alors je vais me détourner. Je vais aller faire autre chose. Et la prochaine fois que je passe devant, je dis, oh là là, je ne suis pas beau. Et à force de passer devant et de voir que vous n'êtes pas beau, eh bien, ça ne fait plus aucune différence. Est-ce que la parole fait son effet lorsqu'elle nous arrive? Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes? Parce qu'au verset 21, il est dit de Romains, verset 23, il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. On peut comprendre que c'est la gloire à venir. Mais à beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu, il est dit que nous partageons sa gloire aujourd'hui. Et frères et sœurs, si vous n'êtes pas prêts à vivre dans la gloire à l'heure même, lorsque la persécution viendra, où serez-vous? Où est-ce que je serai? Parce qu'on passe de la vie terrestre à la gloire céleste en l'espace d'une demi-seconde. N'est-ce pas? Nous savons que les vies ne tiennent pas à grand-chose. Elles tiennent à la volonté de notre Dieu. Il est midi. Je vais m'arrêter là. Je pourrais dire beaucoup encore. Est-ce que j'ai réglé mon problème avec l'existence? Est-ce que j'ai réglé mon problème avec la volonté de Dieu? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'aime? Est-ce que lorsque la parole de Dieu me vient, je suis transformé, je suis touché? Et j'aimerais vous lire encore une lettre avant de vous laisser. La lettre d'un pasteur érythréen à son épouse. C'est tout récent. Ma très chère épouse, Dieu, par sa sainte volonté, a prolongé ma peine de prison. Ma chère, écoutez-moi. Non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que femme chrétienne qui en est arrivée à comprendre qui est Dieu et comment profondes et mystérieuses sont ses voies. Non seulement Dieu a fait de moi une victime à cause de son nom, mais aussi un prisonnier de son amour indescriptible et de sa grâce. Quand ils m'ont amené dans cette prison, j'ai eu des pensées qui étaient contraires à ce que la Bible dit. Je pensais que le diable l'avait emporté sur l'Église et sur moi. Je pensais que le travail de l'Évangile en Érythrée était terminé. Mais il n'a pas fallu un jour pour le Seigneur pour qu'il me montre qu'il est un Dieu souverain. Au moment où je suis entré dans ma cellule, l'un des prisonniers m'a appelé et m'a dit « Pasteur, venez par ici, personne dans cette cellule n'est sauvé. Vous êtes indispensable ici. » Ma chair, plus je reste ici, plus j'aime mon Sauveur. Sa grâce me permet de surmonter la solitude et le désir que je ressens pour toi et pour nos enfants. Parfois je me demande, ai-je perdu la raison? Suis-je devenu fou? Eh bien, n'est-ce pas ce que l'apôtre avait dit? Que je sois saint d'esprit ou hors de mon corps, ou hors de mon esprit, je suis à Christ. Ma très respectée femme, je t'aime plus que je ne peux le dire. S'il te plaît, aide les enfants à comprendre que je suis ici en tant que prisonnier de Christ pour la grande cause de l'Évangile. Est-ce que vous croyez que vous êtes prisonnier de votre existence? Alors vous vivez dans le malaise. Est-ce que vous croyez que vous êtes prisonnier de Christ? Alors même si vous êtes derrière les barreaux, vous expérimentez la grâce de Dieu, l'amour, la miséricorde. Je vais vous inviter à baisser la tête et à vous mettre devant Dieu, afin de répondre à ces questions devant lui. Que vous puissiez lui dire, vous pouvez le faire tout haut, mais vous pouvez le faire dans votre cœur. J'ai besoin de savoir ce que c'est que d'être le prisonnier de Christ. Je veux aimer ma vie. Seigneur, tu nous vois. Nous sommes devant toi. Seigneur, que peut-être que depuis notre naissance, nous détestons la vie que nous avons. Peut-être que depuis ce premier jour et ensuite, avec les événements négatifs qui se sont produits, Seigneur, nous avons encore plus détesté cette vie qui est la nôtre. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon pour cela. Merci de t'être révélé à nous. Merci, ô Dieu, de ne pas avoir écouté ces mauvais messages qui venaient de notre cœur. Et malgré cela, d'avoir continué à nous aimer. De nous avoir poursuivis, Seigneur, de ton amour. Et aujourd'hui, Seigneur, alors que nous sommes là, nous voulons, Seigneur, librement nous mettre, nous placer entre tes mains. Seigneur, quelles qu'étaient les circonstances de nos vies, quelles qu'étaient les souffrances que nous avons vécues, les injustices, nous nous plaçons entre tes mains afin que tu nous fasses aimer la vie que tu nous as donnée aujourd'hui, que tu nous fasses aimer ta volonté, quelle qu'elle soit, pour nos vies. Et que tu rendes, Seigneur, nos esprits accessibles à ta parole. Que sans arrêt, Seigneur, nous puissions nous remettre en question pour que nous puissions continuer à recevoir de toi, grâce pour grâce, et toute la richesse qui est en toi. Seigneur, fais de moi un homme capable de donner, même si je suis en prison. Un homme capable de donner, même si je suis injustement maltraité. Un homme et une femme capable de donner, même si j'ai l'impression qu'on ne m'a jamais rien donné. Seigneur, nous prions, je prie cela dans le nom de Jésus. Amen.